Avez-vous une semaine paisible? Vous êtes-vous reposé cette semaine? Il y a dans la vie des moments un peu plus tranquilles, d'autres un peu plus intenses. Et puis parfois le quotidien ramène ses imprévus. Pour ma part, vous le savez peut-être déjà, c'est plutôt intense en ce moment. Que ce soit au travail ou les objectifs de fin d'année, le temps qui reste pour les remplir se réduit. Que ce soit dans nos projets personnels, on va partir en voyage, on va déménager. Et puis il y a tout ce qui n'est pas prévu en plus. Une panne de voiture, un ami qui a besoin d'aide, la maladie, etc. Vous connaissez tout ça. Et parfois, moi, ça me donne l'impression de vivre deux ou trois journées en une. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, si on me demande « As-tu une semaine paisible ?», la réponse risque d'être entre un non franc et un rire nerveux. Et David, non plus, n'a pas eu une vie de tout repos. Et pourtant, il a écrit le psaume que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous reprenons en effet notre série sur les psaumes, commencée il y a presque un mois. Et alors chacun des orateurs a sa méthode pour choisir le psaume à partir duquel il partage le dimanche. Pour ma part, j'utilise souvent le calendrier de lecture de la Fédération protestante de France, la Bible en 6 ans. Et il se trouve que pour aujourd'hui et pour le dimanche où j'interviendrai encore en novembre, c'est le même psaume qui est au calendrier. Du coup, ça nous permet de rentrer un peu plus en détail dans ce psaume. On va le voir donc en 2 dimanches. C'est un des psaumes les plus connus, peut-être même le plus connu. Et je suis certain que vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est le psaume 23, en effet. Alors je vais vous proposer de le lire en entier, dans sa traduction classique, si José tu veux bien l'afficher. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons entendu ce psaume de nombreuses reprises. Probablement certains le connaissent par cœur. Et si c'est pas en lisant dans la Bible, de nombreux chants anciens ou modernes reprennent des extraits de ce psaume ou le texte en entier. C'est le cas du chant éternel que l'on a chanté tout à l'heure. Alors, pour revenir à notre texte, on a peu d'informations sur le contexte dans lequel ce psaume a été écrit. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un cantique de David. Et le psaume commence avec cette affirmation « L'Éternel est mon berger ». C'est fort comme affirmation, non ? L'Éternel est mon berger. Quand David dit cela, il est en train de parler de Dieu. En effet, le terme Yahvé, que l'on traduit ici par l'Éternel, c'est le nom personnel de Dieu. Ce n'est pas comme El ou Elohim qui signifie Dieu de manière plus générale. Yahvé, c'est le nom unique du Dieu d'Israël, de notre Dieu. De manière plus littérale, on pourrait traduire ce nom par « lui qui est par lui-même ». Il s'agit du Dieu qui a créé la terre et les cieux en Genèse 2. C'est le Dieu de l'alliance avec Noé, avec Abraham. C'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est le Dieu au nom duquel David lui-même a marché contre Goliath. On peut lire en 1 Samuel 17. Donc David répondit, donc c'est David qui répond donc à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. C'est donc ce même David qui dit « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel » et qui dit cette phrase au début du psaume « L'Éternel est mon berger ». En l'exprimant ainsi, David se place, se reconnaît comme une brebis, avec Dieu comme berger. Le berger, c'est parfois le propriétaire, mais c'est surtout celui qui conduit, qui guide les brebis. Il veille sur elles, il leur montre le chemin, il les amène là où il pense que c'est le meilleur pour elles. Les brebis sont complètement dépendantes de leur berger. Un mauvais berger les épuisera, les affamera, ou pire, les perdra. Un bon berger, lui, saura les mener au bon endroit, au bon moment. Et c'est cette dépendance-là que David est en train de reconnaître. David a été lui-même berger. Il sait ce que cela représente comme responsabilité. Il connaît cette dépendance totale qu'ont les brebis vis-à-vis de leur berger. Et lui, il se place comme une simple brebis. Il reconnaît sa dépendance totale à l'Éternel. L'image du berger est utilisée à de nombreuses reprises dans toute la Bible. En Ézéchiel 34, le prophète compare les responsables du peuple d'Israël à de mauvais bergers. Ils ont éloigné le peuple de son Dieu, ils ont agi pour leur propre intérêt. Mais Ézéchiel annonce aussi la venue d'un autre berger qui créera un royaume de paix, qui permettra aux brebis de paître sereinement. Et donc cette image du berger est reprise par Jésus plus tard, et on peut le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10. C'est Jésus qui affirme « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme-là agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. » Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Marc nous a rapporté aussi que Jésus, en voyant une foule nombreuse, est pris de pitié pour eux, car, je cite, « ils étaient comme des brebis sans berger ». Et Jésus, dans le passage qu'on vient de lire, se présente lui-même comme le berger, le bon berger. Il ne remplit pas ce rôle de manière intéressée. Il a un véritable amour pour ses brebis, pour chacun de nous, qu'il connaît personnellement. Alors ce berger qui prend soin de ses brebis, qui donne sa vie pour elles, en sommes-nous fiers? Sommes-nous pleinement heureux de pouvoir proclamer « L'Éternel est mon berger » ou est-ce que c'est quelque chose qui est vague pour nous, on dit ça juste comme ça? Est-ce que ça nous motive, ça nous pousse dans notre vie de savoir que Jésus est notre berger? Il se soucie de chacune des brebis. Il a donné sa vie pour chacune. Et nous sommes invités à partager cette fierté, cette confiance de David. L'Éternel est mon berger. Peut-être que ce qui nous retient, c'est que si Dieu est notre berger, alors nous, nous sommes ramenés à l'image de mouton, et c'est pas forcément flatteur. Cependant, nous partageons quelques caractéristiques communes avec les brebis. On peut retrouver l'instinct grégaire, les brebis suivent le groupe, les moutons sont craintifs, timides. Comme d'autres animaux, ils ont leurs habitudes, dont il est difficile de les décrocher. Ils sont obstinés. Nous aussi. Nous avons ces caractéristiques-là. Nous prenons facilement de mauvaises habitudes. Reconnaître Dieu, et en particulier Jésus, comme notre berger, c'est aussi se reconnaître comme sa brebis. Nous sommes limités dans un environnement qui nous dépasse. Nous voulons en faire à notre guise. Nous sommes craintifs, timides. Mais n'oublions pas que lorsque nous avons l'Éternel comme berger, nous avons l'assurance que c'est un bon berger. Nous avons l'assurance que ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Alors la conséquence immédiate que nous dit le premier verset, c'est que on peut avoir la certitude que lorsque l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Un élément qui est bon de rappeler, c'est que David ici ne dit pas que ses richesses matérielles vont s'accroître, que sa vie sera longue et belle. Dans ce texte, manquer de rien, c'est pas ça. Et les premières années de la vie de David en sont un contre-exemple. Alors que sa foi est réelle et sincère, comme on a pu le voir dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il va ensuite vivre l'insécurité, la privation, l'adversité. Il est pourchassé par Saül. Plus tard, sa famille sera divisée. Manquer de rien, c'est donc pas ça. Alors, si on peut mettre de côté cet aspect matériel de l'affirmation, que reste-t-il? Les versets suivants vont nous aiguiller. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Ce que David exprime ici, c'est une satisfaction intérieure profonde. Son âme est reposée, restaurée. Il peut être agressé, assailli de l'extérieur, mais en son âme, en son fort intérieur, il est serein, reposé. Tout ce dont David a besoin pour dire qu'il ne manque de rien, c'est que son âme soit reposée, restaurée. Ma courte expérience du monde agricole m'a appris que pour prendre bien soin d'un troupeau, il est essentiel de ne dormir que d'une oreille. Le moins de bruit peut être le signe de quelque chose d'anormal. Ça peut être un danger venant de l'extérieur, qui aura comme un voleur ou un animal errant, ou alors ça peut indiquer un animal dans le troupeau qui a besoin d'aide ou d'une intervention immédiate. Le berger est là pour ça. Parfois, sa simple présence suffit à calmer le troupeau. Il apaise les animaux anxieux, il s'assure que chacun a assez de nourriture, il veille aux conflits qui pourraient survenir dans le troupeau. Le berger donne un cadre à son troupeau, il délimite un territoire connu afin d'amener de la sécurité à ses bêtes. Et l'image se transpose aisément à nos vies. Dieu est prêt à veiller sur nous pour que l'on ne manque de rien. Il a une vision plus grande de nos vies que le court interlude de notre passage sur terre. Il souhaite nous libérer de nos craintes, nous rassasier, nous libérer des conflits. Il veut la vie pour nous. Manquer de rien, c'est cela à mon sens. Vivre la vie que Dieu souhaite nous partager. Alors, cela nous demande aussi de notre part d'accepter de vivre dans ce troupeau. Parfois, l'herbe semble alléchante dans le pré d'à côté. Ça peut nous sembler mieux ailleurs, avec un autre berger. Ou parfois, on veut juste échapper à son regard quelques instants. C'est tentant, non? Mais Jésus est notre berger, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je voudrais aussi revenir sur l'image de l'eau évoquée par le psalmiste. Un berger, dont je lisais le livre en préparant cette intervention, raconte que sur le trajet pour rejoindre un beau lac de montagne à l'eau limpide, certaines de ses brebis s'arrêtaient à la première mare sur le chemin, même si l'eau était sale et boueuse. Les brebis semblaient persuadées que c'était là la meilleure eau que le berger avait à leur proposer. L'image de l'eau que l'on boit est reprise plusieurs fois dans la Bible pour illustrer ce que l'on croit. Prenons garde à l'eau que nous buvons, à là où nous ressourçons nos pensées, notre âme. Dieu veut nous conduire auprès des eaux paisibles. Ne nous laissons pas avoir en chemin par une mare boueuse. C'est parce que l'Éternel est mon berger que je ne manquerai de rien. Mais quelle confiance est-ce que je lui accorde? Ayons confiance que dans sa sagesse infinie, Il connaît ce qui nous attend. Il sait où est le bon, par-delà notre horizon, bien souvent trop limité. Le dernier verset que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ou selon d'autres traductions, il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Les moutons sont des animaux peu entreprenants. Ils ont besoin d'être amenés sur des nouveaux pâturages. Si le berger ne veille pas, l'herbe du pré s'épuisera et ne repoussera plus. La prairie risque d'être dévastée, creusée aux endroits où passent et repassent les bêtes. En Ésaïe 53, on peut lire « Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Nous aimons suivre notre propre chemin, en faire à notre tête. Nous sommes doués pour nous engager dans des situations néfastes pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent. Notre chemin, nous le traçons nous-mêmes. Pourtant, Dieu nous invite à suivre un chemin particulier, à la suite du Christ. Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce chemin, c'est le sentier de la justice. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi ce chemin à la suite de Jésus? Alors, je vous invite à lire en Ézéchiel 18, les versets 5 à 9. C'est Dieu qui parle à son peuple et il va leur détailler les caractéristiques d'un homme qui marche sur le sentier de la justice. Soit un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon la justice. Il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme d'autrui et n'a pas de relation avec une femme quand elle est indisposée. Il n'exploite personne, il restitue son gage à celui qui lui a emprunté de l'argent, il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas, il ne prête pas un taux usuraire et ne retient pas d'intérêt, il évite de commettre l'injustice et, s'il doit arbitrer entre un homme et un autre, il rend un jugement selon la vérité. Il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Un tel homme est juste et il vivra. Le Seigneur l'Éternel le déclare. » C'est tout un programme. Voilà à quoi ressemble le sentier de justice que Dieu veut pour nous. Si on regarde bien, il y a plusieurs éléments dans ce texte. On peut voir qu'un homme juste se révèle au travers de sa relation à Dieu et sa relation aux autres. Vis-à-vis de Dieu, c'est une relation de fidélité exclusive qui nous est demandée. Ne pas regarder aux idoles, ne pas participer au repas de sacrifice. Dieu est jaloux. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. L'autre aspect du sentier de justice sur lequel nous sommes invités à marcher, c'est dans nos relations les uns aux autres. Et ici, il est question de deux catégories d'actions. Premièrement, celles qu'on nous enjoint de ne pas faire. Ce sont des restrictions afin de respecter notre prochain. Ne pas exploiter, ne pas voler, ne pas séduire la femme de son prochain, etc. Il y a aussi ce qu'on nous enjoint de faire. Donner son pain ou ses vêtements à ceux qui sont dans le besoin. Juger selon la vérité. La justice dont on parle ici est plus vaste, plus grande que suivre des règles. On aimerait bien parfois se dire quel est le mode d'emploi dans cette situation. Avoir une liste de choses à ne pas faire. Comme ça, le soir, on sort cette liste. On dit c'est bon, aujourd'hui, j'ai pas volé, j'ai pas menti. On coche les cases. Mais la justice va au-delà. Volontairement aider, aimer nos prochains. Ceux qui sont en difficulté, dans le besoin, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont différents de nous, la démarche est moins évidente. Mais notre Dieu nous y conduit. Il ne nous donne pas simplement des objectifs en nous laissant nous débrouiller. C'est ce que David vit et affirme dans le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est l'Éternel qui nous amène, nous conduit. Notre volonté, nos efforts sont insuffisants. C'est avant tout parce que Christ à payer le prix de notre rébellion contre Dieu, que l'on peut être justifié, et vivre cette justice divine dans notre quotidien. Dieu souhaite que l'on progresse, il veut nous conduire plus loin. nous aider, nous faire voir des territoires insoupçonnés dans nos vies, où nous pouvons changer, devenir semblables à lui. Alors, le verset 3 nous rappelle que l'Éternel fait cela pour l'honneur de son nom. C'est dans son ADN, dans sa nature propre, de promouvoir cette justice. Mais est-on prêt à se laisser conduire sur ce chemin, à renoncer à nous-mêmes, à nos ambitions, à changer de cap? Alors, avant de conclure, je voudrais aussi rappeler un point dont on a un peu parlé lors de l'étude de vendredi soir. L'image du berger est juste une image. Et on doit la garder à ce niveau-là. Ce n'est pas une définition de qui est Dieu. Cette image nous permet d'avoir un aperçu d'une des facettes de Dieu et de la manière dont il souhaite être en relation avec nous. Il y en a bien d'autres. Père, médecin, architecte, époux, guerrier, mais aussi lion, aigle, agneau, feu. Il y en aurait encore plein. Donc, nous restreignons pas à certaines images qui nous plaisent en laissant les autres de côté. Alors, en explorant le début de ce psaume, ce matin, on a pu découvrir ou redécouvrir plusieurs choses. Tout d'abord, sommes-nous fiers de notre berger? Vivons-nous cet aspect-là de la relation avec notre Créateur? Cette dépendance? Nous avons le privilège immense d'avoir Jésus comme berger. Celui qui a donné sa vie pour nous. Sommes-nous prêts à le suivre avec les implications que cela entraîne? Mais on peut avoir confiance en lui, il veille. Dans sa sagesse infinie, il voit au-delà de nos horizons limités. Est-on prêt à le suivre, en particulier quand ça nous coûte? Et enfin, dans quels aspects de nos vies est-ce que nous pouvons progresser sur ce chemin de la justice? Ça peut concerner notre relation avec Dieu, notre fidélité, ça peut concerner nos relations les uns les autres, respecter, aimer, être entreprenant. Alors mon souhait, ma prière pour nous ce matin, c'est que nous réussissions à vivre ce repos, cette sérénité qu'a expérimenté David, que notre âme soit restaurée, que nous puissions vivre une pleine confiance à Dieu, que nous réussissions à progresser sur le chemin de la justice.